à votre santé. Eh bien, voici la 203e émission, vous avez entendu, de notre association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis de RVM. Aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. J'ai
Odile Guillard.
André Barnou.
Voilà, et moi je suis toute seule, hein. Mes copains ils m'ont laissée, là ils sont partis en vacances, mais c'est pas grave, avec deux invités, ça compense bien. Hélène Mazure. Alors nous voilà partis aujourd'hui avec nos deux invités pour une série, on va dire, je ne sais pas si je le dis bien, sur la santé psychique, la santé mentale. On va élargir la question de la santé. S'occuper plus particulièrement donc d'une association, je ne me trompe pas, la Nouvelle Forge est une association qui fait un travail depuis des années, un travail de fond, on va dire, et de développement dans notre département et au-delà, pour la prise en charge que vous préciserez, que nos invités vont nous expliquer, d'enfants, je ne me trompe pas, voilà, qui en ont besoin. Donc, d'abord, Odile, c'est la première fois que vous venez à notre émission, donc il faut nous dire quelques mots sur vous.
Alors, moi, je suis... Alors, préciser que je suis au Conseil collégial de RVM, donc c'est une radio que j'essaye de soutenir à ma façon, mais qui est importante. Donc sinon, moi, j'ai travaillé longtemps à l'association La Nouvelle Forge, puisque je suis arrivée, j'y suis arrivée dans les années, en 80, je ne sais plus,
80. Les années 80 ?
Oui, sachant qu'à l'époque, j'étais assistante sociale. Donc j'ai commencé à travailler à l'association La Nouvelle Forge comme assistante sociale, d'ailleurs à Crépy-en-Valois, on appelait ça l'Institut de Crolly, il y avait l'accueil familial spécialisé et le CMPP qui est un centre de consultation pour enfants dont on sera amené à reparler. Et puis j'ai eu tout un cursus professionnel qui fait que j'ai changé d'emploi au sein de l'association, notamment sur une structure très importante dont on parlera, qui est l'Institut Régional des Psychothérapies, qui était à Longuenel, qui aujourd'hui n'existe plus, mais on vous expliquera pourquoi. Et donc là, j'ai commencé à prendre des fonctions de direction et je me suis qualifiée à l'École de la Santé pour avoir les outils qu'il fallait. Et donc j'ai ensuite quitté la Nouvelle Forge pour expérimenter ces fonctions de direction ailleurs. Donc je suis allée dans le Nord, je suis allée à Paris. J'ai eu la chance d'avoir une carrière professionnelle diversifiée. Mais on revient toujours à ses premiers amours et j'ai terminé ma carrière à l'association La Nouvelle Forge qui, sur un plan professionnel, humain, amical, m'a, je dois dire, énormément apporté. J'ai eu beaucoup de chance. Donc aujourd'hui, je reste en lien avec l'association La Nouvelle Forge puisque je suis membre de son conseil d'administration.
Voilà. Très bien. Donc, une vue d'ensemble, j'espère, tout en ayant une expérience. C'est très intéressant pour nous. Tout en, alors, on est, comment dire, au niveau professionnel, en étant resté à un emploi de direction ou en ayant évolué au niveau aussi professionnel.
Alors, j'ai eu un emploi de direction et pour terminer, parce que l'association s'est réorganisée du point de vue de ses organes de direction, étant donné la multiplicité, le développement, etc. Et donc d'ailleurs, à ma demande, mais pas seulement, l'association s'est organisée en pôle. Donc il y a un pôle enfant-adolescent, un pôle adulte, puisque la Nouvelle Forge s'est ouverte au pôle adulte, et un pôle sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les soins, même au sens large du terme. Et donc moi, j'ai terminé en étant directrice de plusieurs établissements et aussi directrice du pôle enfant-adolescent. Donc en fait, j'étais plus à ce moment-là, en ayant des fonctions et sur le terrain et auprès de la direction générale. Voilà.
D'accord, donc c'est intéressant sur le terrain, hein, parce que nos questions vont aussi porter là-dessus.
Les fonctions de direction, c'est toujours important de garder un pied concret.
Avec la réalité.
Voilà.
Alors, notre ami André, on le connaît bien, mais il va quand même nous rappeler en quelques mots son rapport avec la Nouvelle Forge.
Oh, bah, la Nouvelle Forge, pour moi, c'est une histoire qui a commencé en 1969.
Et juste après 68, ça, voilà, un rapport.
Il y avait quand même des choses qui ont été importantes à ce moment-là, oui. Écoutez, en même temps que je suis arrivé en 1969, j'ai découvert là une association qui était une petite association. Tout était dans les murs de ce qui s'appelait l'Institut médico-pédagogique, j'ai failli dire professionnel, parce que j'ai travaillé aussi dans un institut médico-professionnel. Mais là, non, c'est un institut médico-pédagogique qui était à Senlis et qui était en même temps le siège de l'association.
D'accord.
Je suis arrivé là sans formation, mais j'ai rencontré un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Afelio Torrubia, dont je dirai deux mots quand même. Et j'étais là pour voir ce que c'était, et ben, j'y ai fait à peu près toute ma carrière, même si j'ai travaillé aussi dans d'autres établissements, un peu comme Odile, qui est allée et venue, et voilà. Je peux continuer en vous disant un peu comment j'ai découvert la Nouvelle-Forge.
Alors, bah oui, ce qui est intéressant, c'est, voilà, maintenant, vous vous êtes un peu situé.
Oui.
C'est quoi la Nouvelle-Forge ? Déjà, ce nom... on a l'impression qu'on va forger quelque chose ou quelqu'un.
Oui, alors la Nouvelle-Forge, il y a un historique parce qu'il y a eu un premier établissement à Paris qui s'appelait La Forge et puis après il y a eu un déménagement et c'est devenu comme ça la Nouvelle-Forge. Ils ont gardé, effectivement, je pense que le mot de forge était intéressant aussi à conserver, quoi. Et à l'époque, donc, la Nouvelle-Forge, comme je vous disais, c'était dans l'établissement qui accueillait à Senlis 60 enfants jusqu'à 14 ans, avec un internat, un externat aussi pour les filles, un service de placement familial. Et le tout était dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque l'enfance inadaptée, qui regroupait une population très diverse aux difficultés qui allaient de la psychose à la détresse sociale, à la déficience mentale. Donc il y avait une espèce de mélange...
On va dire de maladies mentales et de problèmes comportementaux. Ouais. Ce n'est pas forcément une maladie.
Voilà.
D'accord.
Alors, existait aussi à la même période, dans les murs de l'établissement, le premier CMPP de Senlis, qui a déménagé depuis, et l'association gérait déjà le CMPP de Creil, qui sont des lieux de consultation et de soins ambulatoires qui complètent le dispositif de prise en charge. Et il y avait toujours des liens entre les CMPP et l'établissement qui s'appelait l'IMP.
Mais il me semble, André, excuse-moi de t'interrompre, CMPP, c'est relativement connu dans la mesure où, au niveau scolaire, il peut avoir un lien avec le CMPP. On peut proposer...
Moi, ce que je peux préciser, c'est que les CMPP, qui est une création militante, justement, de la part de certains psychiatres, qui se sont rendus compte des difficultés que rencontraient les enfants dans la question de l'école, des apprentissages, et peut-être le manque de formation bien légitime, parce qu'ils n'y avaient pas accès, des enseignants de l'époque. Et après, les choses se sont peut-être améliorées. Donc l'idée, ça a été un centre médico-psychopédagogique. Donc effectivement, dans son titre, il dit bien quelque chose, d'une part de la notion de rééducation, du langage, du comportement, enfin de tout ce qu'on veut. Donc effectivement, ce que vous disiez, de la notion de soins psychiques, c'est-à-dire de je ne vais pas employer des mots savants, mais des troubles du comportement, ça s'explique peut-être par une difficulté psychique, donc il y a cet accompagnement-là. Et d'autre part, d'un lien très fort avec l'école, sur comment améliorer la question des apprentissages, la question de la place de l'enfant à l'école. Donc ça, c'est tout un mouvement qui s'est créé dans les années 60, même avant. Tout ça, c'est effectivement des résultantes des grandes difficultés de l'après-guerre par rapport à un public d'enfants sans parents, ayant souffert de mille choses comme malheureusement les guerres génèrent, et que là, au fur et à mesure des années, il y a eu des tentatives de réponse dont certaines ont réussi, comme les CMPP. Donc la Nouvelle-Forge, elle était dans ce mouvement-là, sauf qu'elle n'est pas restée uniquement sur la notion de rééducation, elle a englobé la notion de soins au sens le plus large, d'où d'ailleurs, après, mais André en parlera, de ce qu'on a appelé les centres de guidance, que sont les centres médicaux qui se réfèrent plus à la pédopsychiatrie. Donc on est un peu, on fait un pas de plus, je dirais. Mais par contre, l'organisation des soins est restée la même, sachant que la priorité, c'est la question de la proximité, l'accès aux soins, géographiquement même.
D'accord, l'accès aux soins géographiquement. Mais donc quand on dit priorité, enfin, je ne sais pas s'il y a priorité, c'était global.
Oui.
Une rééducation, soins psychiques voilà. et scolarité, si voilà. j'ose dire. Enfin,
non, vous avez, vous avez tout à fait raison, à tel point, maintenant malheureusement il n'y en a plus, mais il y a eu pendant très longtemps des enseignants spécialisés dans les CMPP.
Oui.
Et malheureusement l'éducation nationale a repris ses postes en estimant qu'ils étaient plus pertinents. Ce qui est un vrai moins, bon, on bricole, on fait avec, mais ça a été une vraie perte. Parce qu'en plus, c'était des enseignants qui étaient devenus extrêmement pertinents et qualifiés pour faire le lien... famille, école, CMPP, soins et alors, apprentissage.
Alors, si vous permettez, moi, j'ai connu des enseignants spécialisés au Collège La Fontaine oui. dans ce qu'on appelait la SES à mon époque.
Oui, c'est devenu les SECPA après. Voilà,
oui. Ouais. Alors, est-ce que c'était ces enseignants-là qui étaient un peu... Parce qu'ils avaient quand même une formation spécifique.
Alors, l'éducation nationale, mais je ne pourrais pas le dire précisément, mais propose, je crois encore, des formations spécialisées pour les enseignants qui le souhaitent. Avec une formation plutôt pour travailler en CMPP, une formation plutôt pour travailler en SECPA, etc. Donc, il y a une spécificité. Maintenant, tout ce qui est ambulatoire, même dans les CESAD, il n'y a plus d'enseignants spécialisés. Donc, tout ce qui est ambulatoire pour les enseignants a disparu.
Ambulatoire, excusez-moi, oui, ambulatoire.
Ça veut dire que ce sont les personnes qui sont accompagnées, qui se déplacent, ou les personnes qui soignent, qui se déplacent. Donc, c'est pour ça que je parlais de la proximité géographique. Ce n'est pas un établissement avec des murs, les repas du midi, etc., etc. C'est vraiment comme quand on va chez son médecin, on rentre dans un cabinet. Bon, là, c'est élargi parce qu'il y a des psychomotriciens, des rééducateurs, etc. Mais l'idée, c'est ça. C'est ça qu'on... Ambulatoire, c'est-à-dire... On n'y passe pas la journée, soins. On n'y dort pas. Voilà
ça. Des moments de soins ou de prise en charge dans la journée, entendu.
Voilà, alors excuse-moi André, je t'ai interrompu.
Oui, non, mais c'est très bien. Pour comprendre un peu ce qu'était la Nouvelle Forge et son esprit, il faut se référer effectivement à tous les mouvements d'après-guerre qui ont été très, très actifs. Et qui ont amené justement la naissance de la Nouvelle Forge. Mais ce sont des mouvements théoriques militants, et Aphélie Autorébia, qui est arrivé à Senlis, alors c'est en 1955 qu'il est arrivé à Senlis, qui était lui-même un réfugié politique après la victoire de Franco en Espagne, il a inscrit l'action et l'orientation de la Nouvelle Forge résolument dans le courant de psychothérapie institutionnelle, mouvement théorique militant, en référence à la psychanalyse et à une lecture marxienne de la société.
Alors, tu peux me redire le nom de cette personne ?
Aphélie Autorébia.
Aphélie Autorébia. Bon, ben écoute, oui. J'apprends, parce voilà. que, voilà, je ne savais pas, c'est quand même une orientation importante.
Oui. Oui, 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 très, très importante. Et Senlis deviendra vraiment le creuset d'innovation et de création de pratiques, avec le souci permanent de répondre au plus près des besoins de la population accueillie. Quoi. C'est vraiment... ça a été le maître mot tout le temps. Quoi. Et puis après, bah, écoutez, les choses se sont beaucoup étoffées. Là, il y a des moments importants de l'histoire de la Nouvelle Forge. La Nouvelle Forge prend la gestion d'un ancien établissement de la Sécurité sociale dont a parlé tout à l'heure oui. Odile,
oui.
Qui est à Longueuil-en-Halle, qui deviendra l'IRPR. Et alors, surtout, bien que de statut privé, la Nouvelle Forge passera une convention avec l'hôpital psychiatrique de Clermont en 1973. Mm-hmm. C'est vraiment un acte militant fondamental de la Nouvelle Forge pour inscrire la pratique et l'orientation politique de l'association dans le cadre de santé publique et pour participer à une élaboration commune dans le cadre de la mise en place de la sectorisation psychiatrique.
Alors, santé publique, ça je comprends, parce que alors là, c'est vraiment très... Enfin, c'est fondamental, quoi. Hein, c'est,
oui.
on répond à un besoin dans la société.
Bien sûr.
Et au niveau de la société. Donc, là, en plus, bon, l'hôpital de Clermont, psychiatrique, est connu.
Oui.
Et de savoir qu'il y a eu ces liens,
oui.
C'est quand même très riche. Ça donne un autre aspect que de ce qu'on appelle l'hôpital.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut arriver à... disons, dans le temps qui nous reste, à dire un petit peu comment ça se passait à ce moment-là, pour les enfants.
Comment ça se passait, vous voulez dire, dans les établissements?
Alors, je crois que ça déjà, dans ce que racontait André, ça veut dire qu'au fur et à mesure des années qui passent et des liens qui se tissent, la Nouvelle Forge, avec l'école, avec un certain nombre d'intervenants sociaux, etc., elle était dans la création de ce qu'on dit aujourd'hui de réseau, c'est-à-dire des interventions multipartenariales, même si elle est spécifiquement dans la question du soin, de la rééducation et de l'accompagnement. On n'employait pas ces termes. Je crois que l'idée maîtresse, à travers ce que vient de dire André de l'histoire de la Nouvelle Forge, c'est qu'il n'y avait pas de réponse pour les enfants jusque dans les années 50-60, à part l'hôpital, c'est-à-dire l'asile, qui était terrible, hein, parce qu'on a vu des enfants hospitalisés, y compris à Clermont, dès l'âge de 3-4 ans, et en sortir à 14-15 ans. C'est des choses qui sont assez méconnues, mais c'est parce qu'on n'avait pas de réponse, de réponse théorique, ni de réponse pragmatique, ça a dû se développer, c'est même devenu une priorité au fur et à mesure, et c'est devenu une priorité grâce au mouvement associatif. Les pouvoirs publics, comme souvent, ont suivi ces mouvements associatifs très forts. Associations de parents, associations comme la Nouvelle Forge, enfin, il y a une multiplicité d'interventions du secteur associatif qui a été porteur d'une dynamique extrêmement forte pour aboutir à différentes lois dont on parlera peut-être. Donc quand André parle des CMPP, Centres Médico-Psychopédagogiques, et la convention avec Clermont, c'est-à-dire qu'au CMPP se joint la notion de soin. Donc du coup, pour les personnes qui en ont besoin, c'est de prendre son téléphone, c'est de venir, prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, il y a une série de choses qui peuvent se produire par rapport à ce que le psychiatre ou le psychologue qui font ce premier rendez-vous peuvent comprendre de la difficulté, etc. Peut-être différents bilans, parce qu'aujourd'hui on parle comme ça, mais en gros c'est un peu quelque chose qui s'évalue entre l'enfant, sa famille et les professionnels pour voir ce qu'on va déterminer comme mode d'accompagnement dans la famille, au CMPP, à l'école, et comme ça se déclinent les choses. Et du coup, il peut arriver que les orientations sur le mode de venir voir, etc., dans le champ d'un CMPP, sont insuffisantes, d'où l'orientation vers des établissements spécialisés. Ça, c'est comme ça que ça s'est créé.
D'accord. Alors, ce qui est important, c'est l'accueil et la prise en charge des enfants.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je pense qu'en fait, ce que dit Odile est essentiel, c'est-à-dire que travailler avec l'hôpital, c'était travailler au fait que l'hôpital devait passer de cette fonction asilaire à une fonction soignante. Et c'est à ça que, justement, a travaillé la Nouvelle Forge en particulier. Ouais. C'était le seul exemple en France au moment où il a signé cette convention en 73.
C'était formidable. Hein. Oui, c'était très novateur.
C'était absolument novateur, quoi. Et je pense que le mouvement de psychothérapie institutionnelle était le mouvement qui luttait contre l'asile, l'aliénisme asilaire, quoi.
Oui. Voilà. Écoutez, là, franchement, c'est assez extraordinaire parce qu'on ne s'imagine pas, on est tellement habitué à l'existence de ces établissements. Et par contre, on souffre aujourd'hui de l'insuffisance du nombre de places, de prise en charge, etc. Que quand on voit ce déroulement, ce parcours, on voit le travail accompli. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il faudra que nous y revenions dans une prochaine émission pour bien voir ce qui est fait dans l'établissement, puis le parcours d'un enfant ou d'un autre, et un peu votre expérience aussi. Donc je vous remercie et je dis à nos auditrices et auditeurs qui peuvent nous écouter comme d'habitude le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et bien entendu en podcast ensuite. Au revoir.
Au revoir, merci à vous.